En France. Le classicisme français connaît son apogée de 1660 à 1680, avec Nicolas Boileau, Jacques Bénigne Bossuet, Oraison funèbre, Discours sur l'histoire universelle, Sermon, Jean de la Bruyère, Jean de la Fontaine, Fable, Adonis, Le Florentin, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, Jean Racine. Après des études de droit, Pierre Corneille se consacre au théâtre et connaît son premier grand succès avec Le Cid, écrit en 1636, avant d'entrer en 1647 à l'Académie française. La tragédie de Corneille est avant tout celle de la grandeur. La volonté du héros cornélien, plus forte que sa sensibilité, est mise au service du devoir et de la morale. Il a un honneur, une foi religieuse qui entre en conflit avec le désir de vivre. Il choisit alors de sacrifier son amour, voire sa vie, à son devoir. Dans Le Cid, Chimène demande ainsi la mort de son fiancé pour venger son père. Corneille s'est illustré dans la comédie, Mélite en 1629, l'illusion comique en 1636, aussi bien que dans la tragédie, Horace en 1640, Cinna en 1640 aussi, Polyeucte en 1643 et Attila en 1667. Marqué par ses études aux écoles de Port-Royal et sa jeunesse dans le milieu janséniste, Jean Racine développe une inspiration souvent empruntée aux légendes grecques, à l'histoire ou à la Bible. Le moteur essentiel de l'action réside chez lui dans les passions et mouvements de l'âme. Les tragédies commencent au moment où la crise va éclater et se prolongent par le jeu des sentiments. Ses œuvres les plus connues sont Andromaque de 1667, Bérénice 1670, Iphigénie 1674 et Phèdre 1677. Le héros de Racine est fataliste et sait que la volonté humaine ne peut rien face au destin. La mort rend les choix faits irrémédiables. Nul n'échappe à la solitude et au poids du remords. C'est grâce à son aisance personnelle que Nicolas Boileau se consacre à la littérature. Historiographe du roi, c'est-à-dire en charge de relater le règne de Louis XIV, charge qu'il partage avec Racine, il entre à l'Académie en 1684. Son œuvre se compose de satires, 1666, à la fois morale et littéraire, d'un poème héroïque-comique, Le Lutrin, en 1673, et surtout de l'art poétique, l'année suivante, véritable doctrine de l'œuvre d'art. Le chant 1 définit les règles de la versification, le chant 2 les genres secondaires, l'élégie, les odes et le sonnet, le chant 3 les grands genres, la tragédie, la comédie et l'épopée, et le chant 4, une moralité, une finalité de l'œuvre. Boileau préconise l'imitation des anciens, le respect de la nature véritable de l'homme, fondée sur l'équilibre et la raison, avant de condamner le burlesque et la préciosité.
Un peu de technique, place aux jeunes. La querelle des anciens et des modernes, qui dure en plusieurs étapes toute la seconde moitié du XVIIe siècle, concerne l'éventuelle primauté de la littérature de l'époque sur celle des anciens. Du côté des anciens, Boileau, Racine, La Fontaine, Bossuet, La Bruyère. Du côté des défenseurs des genres nouveaux, comme l'opéra, le conte ou le roman, Fontenelle et Perrault. Les questions de l'imitation, de l'innovation, du progrès en art sont abordées. Perrault lance la querelle avec son poème « Le siècle de Louis le Grand », qui donne la supériorité aux modernes. La Fontaine lui répond par l'épître à Huet, où il présente sa doctrine de l'imitation originale. Les modernes finiront par triompher, ouvrant une voie propice à une nouvelle forme de critique littéraire.
Jean de la Bruyère occupe les fonctions d'avocat au Parlement de Paris, puis de trésorier de finances à Caen. Sa vie d'étude l'amène à traduire les caractères de Théophraste et lui procure le poste de précepteur du duc de Bourbon, fils du grand Condé, à partir de 1684. Favorable aux anciens, il leur consacre son discours de réception à l'Académie en 1693. Moraliste qui s'attache à peindre les travers de l'humanité, La Bruyère en fait de vivants caractères dans son œuvre publiée en 1688. Le portrait physique devient le support de la peinture de l'âme, les moindres gestes ou attitudes devenant des révélateurs. Fils d'un marchand tapissier, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, naît à Paris en 1622. Il suit les cours du collège jésuite de Clermont avant de faire des études de droit. En 1644, il ouvre au jeu de paume l'illustre théâtre. Au contact d'acteurs italiens de la Commedia dell'arte, il retire beaucoup d'idées mises en pratique avec Sganarelle ou Le cocu imaginaire. Ces précieuses ridicules lui apportent un énorme succès en 1659. Mais en 1661, il joue devant la cour L'école des femmes, qui lui apporte la censure et des difficultés. La pièce étant jugée contraire à la bienséance. Le Tartuffe se voit à son tour interdit et est la source de nouveaux tourments pour son auteur de la part de la cabale dévote. À la fin de la quatrième représentation du Malade imaginaire en 1673, Molière s'éteint sur scène dans le fauteuil du malade, dont il interprète le rôle. Parmi ses autres pièces, Le Misanthrope, Le médecin malgré lui, L'avare, Le bourgeois gentilhomme. En Italie. Le XVIIe siècle italien est marqué par l'occupation espagnole. C'est surtout la prose scientifique qui tend à se développer sous l'impulsion d'érudits et de savants tels Galilée. La fin du siècle voit la fondation d'une académie, l'Arcadie, en 1690 à Rome. Les poètes qui y adhèrent prennent le nom de berger et louent les charmes de la vie pastorale et bucolique à travers des canzonettes. Métastase reste le plus connu d'entre eux. Le poète dramatique Scipione Maffei inspire Voltaire avec sa Mérope. Quant à Carlo Goldoni, il fournit tout un répertoire de comédies dont La Veuve rusée et La Villégiature. Vittorio Alfieri, 1749-1813, compose des pièces en respectant les règles de la tragédie française et puise sa source d'inspiration dans l'histoire antique, choisissant ses sujets de manière à exalter l'héroïsme. En Espagne. Le siècle d'or de la littérature espagnole débute dans la seconde moitié du XVIe siècle avec Cervantes. Dans son œuvre abondante, il faut mettre à part Don Quichotte. Il publie un roman, Le Galatée, et les nouvelles exemplaires, recueil de récits humoristiques et moraux. Le théâtre est alors le genre qui se développe le plus. On attribue à Lope de Vega 1800 comédies, dont Le mariage dans la mort ou L'étoile de Séville. Les sujets sont empruntés surtout à l'âge héroïque espagnol et les sources en sont les romanceros, brefs récits oraux à l'origine. Au-dessus de tous ces poètes classiques brille Pedro Calderón de la Barca. Il compose 121 drames profanes et 73 autos sacramentales religieux, dont l'Alcade de Zalamea, La vie est un songe et Le prince vaillant. Tirso de Molina est l'un des plus importants auteurs de comédies de mœurs espagnoles. On lui attribue la première version de l'histoire de Don Juan sous le titre du Convive de Pierre. En Angleterre. Les origines du théâtre en Angleterre sont très proches de celles du théâtre en France. Au XIIe siècle, on représentait des miracles, analogues à nos mystères et moralités. Entre 1580 et 1640, le drame prédomine avec les œuvres de Christopher Marlowe. Tamerlan, le docteur Faust et Édouard II, première tragédie s'inspirant de l'histoire anglaise. S'épanouissant sous le règne d'Élisabeth Ière, le théâtre élisabétain, comme on l'appelle, est fort apprécié. Le public est mêlé, mais le plus souvent populaire. Et Shakespeare veut d'abord plaire à son public. L'action du drame s'oppose en tout point à la tragédie classique. Ses comédies sont un subtil mélange de naïveté comique et de réflexion spirituelle profonde. Peine d'amour perdu est une œuvre de jeunesse. Œuvre de la maturité, Le Marchand de Venise, Richard III, Roméo et Juliette ou Le songe d'une nuit d'été ont pour thème dominant le patriotisme et l'amour. Les dernières pièces, Hamlet, Othello, Macbeth, Le roi Lear, révèlent le grand pessimisme à travers des personnalités passionnées. Ultime œuvre, La tempête est pleine de compréhension envers l'humanité. En Russie. En 1563, la première imprimerie est ouverte à Moscou et publie son premier livre, Les Actes des Apôtres. La période qui suit, marquée par des troubles, n'est guère propice à la réalisation d'œuvres littéraires. Il faut attendre le milieu du XVIIe siècle pour voir se diffuser, par l'intermédiaire de la Pologne, une littérature de romans venue de France ou d'Italie. D'autre part, en 1656, une nouvelle hérésie se produit. Le patriarche Nikon s'attaque à la révision des livres liturgiques d'après les originaux grecs, comme l'avait déjà fait son prédécesseur Maxime le Grand. La vie du protopope Avakum, 1682, chef de l'hérésie conservatrice des vieux croyants, raconte les tourments qu'il subit ainsi que sa famille. C'est une des œuvres littéraires les plus personnelles de cette époque.
Le saviez-vous ? On passe au salon ? À partir de 1715, le rôle de la cour dans le mouvement intellectuel littéraire et artistique, s'affaiblit et laisse petit à petit place à celui des salons. Écrivains, artistes, financiers, gens du monde s'y côtoient et discutent les productions de toutes sortes, critiquent celles de la littérature. Avant 1750, les salons les plus célèbres sont ceux de la duchesse du Maine-Sault, de la duchesse de Lambert, de Madame de Tencin, où furent reçus Montesquieu, Marivaux et Helvétius. Après 1750, Madame du Deffand et Madame Geoffrin reçoivent les encyclopédistes avec nombre de grands seigneurs. Le salon de Mademoiselle de Lespinasse reçoit d'Alembert, Diderot, Bernardin de Saint-Pierre. Les encyclopédistes fréquentèrent également le monde du théâtre, le salon de Madame de la Poplinière notamment.
La littérature des Lumières, 18e siècle. Cette période de faste pour la pensée est appelée siècle des Lumières. Par le mot lumière, on sous-entend le mouvement intellectuel qui se développe en Europe au XVIIIe siècle, évoquant l'impact de la raison éclairante sur les ténèbres des pensées passées. La raison est au centre de tout. Les récits de voyageurs amènent à s'interroger sur l'autre et l'ailleurs. Les principaux auteurs de cette période sont Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro, Jacques Cazotte, Le Diable amoureux, Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Alain-René Le Sage, Le Diable boiteux et Turcaret, Pierre de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard, Paysan parvenu, La vie de Marianne, Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. En 1765, lorsque Jean-Jacques Rousseau entreprend d'écrire ses Confessions, dont il emprunte le titre à l'œuvre de Saint-Augustin, il ouvre la voie à un genre nouveau, l'autobiographie. Ses Confessions représentent une réponse à sa vie, ses choix. Les genres comme le journal ou les mémoires se multiplient durant toute la période. Chargé par le libraire Le Breton de traduire le dictionnaire encyclopédique de Chambers, Denis Diderot entreprend la publication du dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, plus connu sous le nom d'encyclopédie. En 1750, il lance le prospectus, brochure de 12 pages qu'il vient de rédiger. Entre 1751 et 1760 paraîtront 17 volumes de textes et 11 volumes de planches entre 1762 et 1772. En 1758, à l'interdit du gouvernement vient s'ajouter l'interdit papal. Le projet ne pourra être achevé qu'après le bannissement des jésuites.
N'oubliez pas, le projet encyclopédique. Tout le projet égalitaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789 est présent en filigrane, dans le but que s'assignent, dès 1751, les rédacteurs de l'encyclopédie. Permettre à tout homme de s'affirmer pleinement, tel par la maîtrise du savoir, chemin vers la pratique de la vertu. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui leur succéderont. Que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain.
Diderot est l'âme de cette œuvre gigantesque. Son premier collaborateur est le mathématicien Jean Leron, dit d'Alembert, qui rédigea le discours préliminaire et l'article sur Genève. À côté de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, on peut citer également Jean-François Marmontel pour la critique littéraire, Paul d'Holbach et Claude-Adrien Helvétius, philosophe rationaliste, Étienne de Condillac, philosophe sensualiste, Anne-Robert Turgot et François Quesnay pour l'économie politique.
N'oubliez pas, Paris, capitale de l'Europe. Au moment où s'éteint Louis XIV, la langue et la culture française dominent en Europe. Cette langue se substitue progressivement au latin pour les négociations et les traités. L'élite étrangère, souverains, diplomates, haute société, parle français. Rivarol, à la fin du XIXe siècle, peut écrire dans son discours sur l'universalité de la langue française « Paris fixa les idées flottantes de l'Europe et devint le foyer des étincelles répandues chez tous les peuples. » nos livres devinrent des livres de tous les pays, de tous les goûts, de tous les âges. Les premiers journaux qu'on vit circuler en Europe étaient français et ne racontaient que nos victoires et nos chefs-d'œuvre. Jusqu'à la fin du siècle, Paris rayonne par l'intermédiaire des salons, mais aussi des cafés, dont le plus connu est le Procope, rue de l'Ancienne Comédie. La France propose alors un nouvel art de vivre. Beaucoup d'étrangers résident à Paris, comme les Anglais David Hume et Horace Walpole. Aux alentours de 1760, à cause d'un sentiment nationaliste croissant, des sentiments contraires apparaissent, en réaction contre le culte desséchant de la raison des Lumières.
La littérature romantique. L'adjectif romantique, au XVIIe siècle, trouvait son équivalent dans romanesque. C'est surtout avec le mouvement allemand du Sturm und Drang, tempête et assaut en allemand, que le mot prend son sens moderne. Le romantisme se manifeste d'abord comme un refus des règles définies par les classiques depuis Boileau. En dehors de Rousseau, les grands initiateurs seront François René de Chateaubriand, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Charles Nodier, Gérard de Nerval, Madame de Staël. L'âme romantique se caractérise par la recherche de l'évasion à travers temps et espace, un violent sentiment de la fatalité, le désir d'exister dans la passion, et les thèmes de l'inquiétude, de la mélancolie et du désenchantement. Avant 1830, le héros romantique, influencé par le romantisme allemand, recherche l'infini dans l'expression de sa sensibilité. C'est le cas chez Benjamin Constant et Alphonse de Lamartine. D'origine aristocratique, il nourrit sa solitude de rêveries amoureuses ou exalte ses sentiments religieux. La nature se fait pour lui l'écho d'un infini. Après 1830, il devient un guide pour les nations. Par lui, les aspirations à la liberté politique s'affirment. La célèbre allégorie de Delacroix, « La liberté guidant le peuple », illustre l'insurrection générale du romantisme contre toutes les barrières.
Le saviez-vous ? Et moi, et moi, et moi. La prédominance du moi et des sentiments est l'un des thèmes centraux du romantisme. Le repli sur soi est une double réaction aux espoirs déçus de la Révolution de 1789 et de la Restauration. Cette prédominance du moi s'exprime chez Stendhal, 1783-1842, par une quête effrénée du bonheur, alors que chez Hugo, le « je » du poète devient un lieu de rencontre avec le divin et fait de lui un voyant, un prophète. Parmi de nombreux thèmes traités, figure la passion amoureuse, les obstacles à franchir, le dépassement des faiblesses du héros. Ce dépassement peut prendre la forme de la révolte chez Byron, de la quête de Dieu chez Lamartine, voire de la connaissance dans le Faust de Goethe.
En France, la nature constitue l'un des thèmes prédominants. Elle est décrite dans ses véritables aspects ou transformée par le regard du poète, son sens du merveilleux, à moins qu'il ne découvre en elle des symboles métaphysiques comme Hugo. La place de l'homme pose une multitude de problèmes psychologiques et relationnels, Hugo, Vigny, ou même d'ordre politique. Les méditations poétiques publiées en 1820 d'Alphonse de Lamartine, suivies des odes et poésies diverses publiées aussi en 1820 de Hugo et des poèmes antiques et modernes de 1826 d'Alfred de Vigny, sont parmi les premiers chefs-d'œuvre romantiques publiés. Une rivalité très âpre oppose les tenants du classicisme, regroupés autour de l'Académie française, et les nouveaux auteurs qui se retrouvent dans le salon de Charles Nodier, au Cénacle ou au siège de la revue La Muse française d'Émile Deschamps. La controverse prend un tour passionné à propos de trois textes considérés comme les manifestes du romantisme. La préface à Cromwell de Hugo en 1827, le texte d'Alexandre Dumas, Henri III et sa cour de 1829, et surtout, Hernani, la pièce de Hugo dont la première le 25 février 1830 déclenche une bataille rangée parmi les spectateurs, inconditionnels ou farouches opposants du romantisme naissant.
N'oubliez pas, la bataille d'Hernani, comme si vous y étiez. Il ne faut pas se laisser abuser par l'image d'un 19e siècle pétri de conventions sociales, guindé dans l'exercice des bonnes manières bourgeoises. Les romantiques étaient prêts à se battre en duel pour faire échouer la cabale de leurs adversaires. Dans son Histoire du romantisme, Théophile Gautier raconte ainsi l'un des épisodes célèbres de la geste romantique. La première représentation d'Hernani, le 25 février 1830. On ne pouvait pas, quelque brave qu'il fût, laisser Hernani se débattre seul contre un parterre mal disposé et tumultueux. Contre des loges plus calmes en apparence, mais non moins dangereuses dans leur hostilité polie. La jeunesse romantique, pleine d'ardeur et fanatisée par la préface de Cromwell, s'offrit au maître qui l'accepta. On s'en régimenta, par petite escouade dont chaque homme avait pour passe le carré de papier rouge timbré de la griffe « Hiérault ». Dans une intention perfide, et dans l'espoir sans doute de quelque tumulte qui nécessita ou prétexta l'intervention de la police, on fit ouvrir les portes à 2 heures de l'après-midi. Si sous 7 heures d'attente, dans l'obscurité, ou tout au moins la pénombre d'une salle dont le lustre n'est pas allumé, c'est long. Même lorsqu'au bout de cette nuit, Hernani doit se lever comme un soleil radieux.
En Allemagne, le romantisme est particulièrement fécond outre-Rhin. Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781, initiateur du drame bourgeois, concentre son activité sur le théâtre. Mais les essais de littérature et d'esthétique y tiennent aussi une grande place. Il publie des lettres sur la littérature récente où il souligne que le génie allemand est plus proche de Shakespeare que de Corneille. L'idéalisme allemand recherche un équilibre entre connaissance et intuition, sensibilité et intelligence, et souhaite pour cela un perfectionnement de la personnalité. Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, est l'un des principaux animateurs du Sturm und Drang, mouvement qui prône la révolte contre la raison, les conventions sociales et religieuses, et qui se traduit aussi par des idées patriotiques et révolutionnaires. Les influences littéraires proviennent de Shakespeare ou de Rousseau. Le romantisme allemand s'illustre aussi dans des contes imagés, comme Le Chaboté, publié en 1844 de Ludwig Tieck, dans les comédies d'Heinrich von Kleist, comme Le Prince de Hambourg de 1810. C'est toutefois un émigré d'origine française, Adalbert de Chassimeau, qui donne en 1814 une œuvre fondatrice, L'étrange histoire de Pierre Schlemihl. La philologie germanique naît grâce aux études des frères Jacob et Wilhelm Grimm sur la mythologie et la langue allemande. Leur œuvre commune, la plus populaire du romantisme allemand, est formée de contes d'enfants et du foyer, issus de la tradition orale et de la compilation de documents anciens. Une place à part, enfin, doit être réservée à l'exaltation mystique incarnée dans les hymnes à la nuit publiés en 1800 par Friedrich von Hardenberg, dit Novalis, âme du groupe des poètes romantiques d'Iéna. La poésie lyrique de cette période développe des idées générales, ses effets sur la société humaine ou son origine. Hölderlin et Johann Paul Friedrich Richter, dit Jean-Paul, sont les poètes les plus importants. Le premier compose des hymnes au génie de la Grèce, élégies de Ménon, Hyperion. Le second rédige de simples élégies ou de puissants romans dont l'influence s'exercera sur toute une génération. Hespérus, le Titan.